hurry, maybe get the color boss dying. Chance of Miami, get a cold. Baby, just stay at Bill Joe. When I stay in the shoes, and I will hold Billy Sane. In a hurry, maybe get the color boss dying. When it's the same, I ain't gonna call me a steam. You don't have a charm, another judge of God, David's a sham.
Cécile Brun.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.
Il est midi en temps universel. Merci d'écouter RFI.
RFI midi.
Le grand journal international. Bonjour Juliette Pietraszewski.
Bonjour Clotilde.
À la une de ce journal, le Pakistan déclare la guerre aux autorités talibanes d'Afghanistan.
Après une offensive afghane à sa frontière et qui a conduit Islamabad à bombarder notamment Kaboul, alors que le gouvernement afghan dit vouloir le dialogue pour résoudre le conflit, on va revenir sur ce point de bascule dès le début de ce journal. Après des pourparlers à Genève hier entre Téhéran et Washington, le chef des droits de l'homme de l'ONU se dit aujourd'hui extrêmement inquiet du risque d'escalade militaire régionale. Le puissant groupe armé irakien Kateb Hezbollah, proche de l'Iran, dit se tenir prêt en cas de guerre avec les États-Unis. On reviendra aussi sur l'application provisoire du Mercosur par l'Union européenne, annoncée par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, il y a un peu plus d'une heure, et qui fait grincer des dents la ministre de l'Agriculture en France. Et puis du foot et le tirage au sort des huitièmes de la Ligue des Champions en fin de journal.
Notre patience a atteint ses limites, c'est désormais la guerre ouverte.
Ce sont les propos cette nuit du ministre pakistanais de la Défense, Rawaja Azif, sur le réseau social X, juste après des bombardements qui ont visé la capitale afghane, Kaboul, mais aussi Kandahar et la province frontalière de Paktia. On va revenir sur ce point de bascule avec vous, François-Damien Bourgerie, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette escalade brutale à l'heure actuelle ?
Eh bien, tout a commencé en fait le week-end dernier. L'armée pakistanaise a mené des frappes contre ce qu'elle a qualifié de camp terroriste en Afghanistan. Kaboul a répliqué hier en lançant une offensive à la frontière. Islamabad a donc répondu par de nouveaux bombardements. Des affrontements ont ensuite éclaté à la frontière entre les deux pays. Les autorités talibanes ont indiqué avoir attaqué plusieurs positions pakistanaises. Islamabad rapporte aussi des attaques de drones sur son propre territoire contre trois villes de l'intérieur du pays.
Mais cela faisait en réalité des mois que les tensions étaient vives entre les deux pays.
Oui, depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021, les deux pays s'affrontent de manière sporadique. En cause, une frontière mal définie et contestée. Islamabad accuse aussi l'Afghanistan de servir de sanctuaire aux TTP, les talibans pakistanais qui mènent des attentats côté pakistanais, des attentats de plus en plus nombreux ces dernières années. La situation s'était déjà embrasée en octobre avec plusieurs dizaines de morts de part et d'autre. Une médiation du Qatar et de la Turquie avait alors permis une trêve entre les deux voisins, mais Islamabad l'avait jugé caduque seulement 9 jours plus tard. Et depuis, aucun cycle de négociation n'est parvenu à désamorcer le conflit.
Les précisions de François-Damien Bourgerie du service international de RFI. Et parmi les réactions à l'international, l'Iran offre son aide pour faciliter le dialogue entre l'Afghanistan et le Pakistan. Déclaration du ministre iranien des Affaires étrangères ce matin, peu après l'embrasement du conflit transfrontalier. L'Iran qui met aussi en garde Washington contre toute exigence excessive. De quoi refroidir l'optimisme affiché hier à l'issue d'une nouvelle session de pourparlers à Genève entre Téhéran et Washington. L'Iran avait en effet mentionné des bons progrès supposés amener à une probable nouvelle session de pourparlers dans moins d'une semaine. Ces discussions apparaissent comme celle de la dernière chance pour éviter une confrontation militaire après un déploiement américain massif au Moyen-Orient. Donald Trump avait lancé le 19 février dernier un ultimatum de 10 à 15 jours pour décider si un accord avec Téhéran était possible ou s'il allait recourir à la force.
De son côté, le chef des droits de l'homme de l'ONU se dit extrêmement inquiet du risque d'escalade militaire régionale.
La Chine a recommandé à ses ressortissants de ne pas se rendre en Iran et a exhorté ceux qui s'y trouvent déjà à quitter dès que possible le pays pour des raisons sécuritaires. Sans mentionner directement l'Iran, les États-Unis, eux, ont donné l'autorisation aux employés gouvernementaux non essentiels en poste en Israël de quitter le pays en raison, je cite, de risques pour leur sécurité. L'ambassade américaine a appelé ses employés à envisager de quitter Israël tant que des vols commerciaux sont disponibles.
Et les alliés de l'Iran dans la région disent se tenir prêts prêt en cas de guerre avec les États-Unis.
Hier soir, le chef des Katab Hezbollah, faction irakienne proche de Téhéran, a menacé directement Washington. Bonjour Abla Junaidi.
Bonjour.
Le groupe n'était pas intervenu en juin dernier lors de l'attaque conjointe entre les États-Unis et Israël contre l'Iran, mais cette fois, il dit se tenir prêt.
Oui, contrairement à son homonyme libanais qui a dit cette semaine se tenir en retrait en cas d'intervention limitée, cet autre allié de l'Iran demande à ses hommes de se préparer à une guerre d'usure. Kataeb Hezbollah menace les États-Unis de pertes immenses en cas d'attaque, surtout si un changement de régime est le but recherché, selon les déclarations d'un commandant du groupe à l'agence France-Presse. Kataeb Hezbollah, d'un point de vue idéologique comme militaire, est considéré comme l'une des factions irakiennes les plus proches de Téhéran, même s'il n'était pas intervenu en juin dernier en soutien du régime iranien. Elle promet cette fois de faire preuve, je cite, de moins de retenue. Voilà des semaines que le groupe armé dit avancer dans ses préparatifs, fort de son arsenal de drones, roquettes et missiles balistiques. Le mois dernier, sur ses réseaux sociaux, il partageait les images censées montrer des recrutements de jeunes moujahidines volontaires pour des opérations suicides. Leur cible potentielle, la présence américaine dans le pays. Redoutant cette issue, le département d'État a téléphoné hier au président irakien pour demander que l'Irak reste, je cite, en dehors des conflits régionaux.
Les précisions d'Abla Junaidi, spécialiste Proche et Moyen-Orient au service international de RFI.
Alors, on mentionnait les pourparlers entre Téhéran et Washington à Genève. D'autres discussions, Juliette, ont eu lieu dans la ville suisse hier entre Washington, cette fois-ci, et Kiev.
Les émissaires ukrainiens et américains ont échangé pour préparer de nouvelles rencontres trilatérales avec la Russie. De son côté, Moscou dit n'avoir aucune échéance pour mettre fin à la guerre qui fait rage depuis près de 4 ans en Ukraine.
On l'a appris il y a un peu plus d'une heure, l'UE va appliquer l'accord du Mercosur de façon provisoire.
La ministre française de l'Agriculture a déjà réagi. Elle regrette cette application provisoire de cet accord commercial. La présidente de la Commission européenne a décidé d'aller de l'avant malgré l'opposition de la France. Ursula von der Leyen l'a annoncé à 11h30 en direct de Bruxelles. Pierre Benazé, bonjour.
Bonjour.
Pierre, l'accord peut désormais être appliqué puisque deux pays du Mercosur l'ont d'ores et déjà ratifié.
Oui, je l'ai toujours dit, c'est ce qu'affirme Ursula von der Leyen. Quand ils seront prêts, nous le serons aussi. Et puisque l'Uruguay et l'Argentine ont ratifié cette semaine l'accord avec l'Union européenne, la Commission met en œuvre l'accord de manière provisoire. Les 27 lui en ont donné le droit à la majorité lorsqu'ils ont donné leur feu vert pour la Commission à y signer en janvier cet accord négocié depuis 25 ans. Pour la Commission et la majorité des pays de l'UE, cet accord crée un marché commercial de 720 millions de consommateurs, d'autant plus important à l'heure où les États-Unis remettent en cause par leurs droits de douane les équilibres du commerce mondial. La Commission reconnaît que cet accord ne sera entièrement validé que lorsqu'il aura été voté par le Parlement européen, mais elle va tout de même de l'avant et profite de ses prérogatives pour annoncer cette application, à l'instar de l'accord avec le Canada, appliqué de manière provisoire, rappelons-le, depuis 2017. Il reste que cette décision surprend ici, car d'habitude, un accord de bonne entente voulait que la Commission attende l'avis du Parlement avant de proclamer une application provisoire.
Précision de Pierre Benazé, notre correspondant à Bruxelles.
Et à Bruxelles également, les fonds européens pourront désormais financer l'accès aux avortements sûrs et légaux dans les États membres.
Et on va prendre la direction de la Pologne, où l'accès à l'avortement est le plus complexe. À Varsovie, Adrien Sarla a rencontré les activistes qui se réjouissent du potentiel de cette avancée pour les Polonaises souhaitant interrompre leur grossesse.
Faire rimer fonds européens et accès à l'IVG, à l'intérieur du seul et unique centre associatif pour l'avortement de Pologne, Zosia ne s'attendait pas à une telle décision de la part de l'Europe.
C'est une bonne décision et une bonne surprise pour nous. Il s'agirait de fournir de l'aide logistique et de faire reconnaître le droit à recourir à un avortement sûr de façon autonome. Donc ça nous tient vraiment à cœur, évidemment.
Ici, seules les grossesses résultant d'un viol, d'un inceste ou présentant un danger pour la vie de la mère permettent d'avoir accès à l'avortement. Alors Zosia espère que certains États profiteront de ces fonds européens pour permettre aux femmes issues de pays où la loi est très restrictive de venir interrompre leur grossesse chez eux.
Dans quelle mesure cette décision va vraiment aider les gens qui ont besoin d'avorter en Europe, ça va dépendre des États membres. Car tout cela est optionnel et on sait par expérience qu'il n'y a pas de volonté politique d'aller dans ce sens au sein de notre gouvernement.
L'initiative Ma Voix, Mon Choix proposait même d'aller plus loin en créant un fonds spécifique pour aider les femmes venues des pays les plus restrictifs à avorter. La Commission européenne y a renoncé au nom de la souveraineté des États membres sur les questions de santé. Adrien Sarla, Varsovie, RFI.
Il Il est 7h09 à Washington. L'affaire Jeffrey Epstein continue, Juliette, d'embarrasser toute la classe politique américaine.
L'ex-président Bill Clinton va devoir s'expliquer aujourd'hui devant une commission d'enquête parlementaire sur ses liens avec le criminel sexuel mort en prison en 2019. Après Hillary Clinton hier, l'exercice sera sans doute un peu plus compliqué pour l'ancien président démocrate. Il a toujours affirmé qu'il avait coupé les ponts avec le prédateur sexuel américain bien avant que ses crimes éclatent au grand jour, Vincent Souriau.
Oui, Bill Clinton a fréquenté Jeffrey Epstein. Il l'a toujours admis. Il a bel et bien voyagé plusieurs fois à bord de son avion personnel. Mais c'était, selon le couple Clinton, au bénéfice de la fondation caritative de l'ancien président américain et bien avant que les agissements d'Epstein soient rendus publics. Bill Clinton apparaît des dizaines de milliers de fois dans la procédure, mais on n'y trouve aucune correspondance directe entre les deux hommes. En revanche, les élus républicains vont se faire un plaisir de le questionner à propos de plusieurs photographies. Bill Clinton dans une piscine en compagnie de Ghislaine Maxwell et d'une femme dont le visage est caviardé. Bill Clinton assis, une femme installée sur l'accoudoir. Elle passe le bras autour de son épaule. Il la tient par la taille. Rien de répréhensible à première vue. Le patron républicain de la commission d'enquête rappelle d'ailleurs qu'à ce stade, personne n'accuse les Clinton de quoi que ce soit. Il s'agit, dit-il, d'une simple audition qui vise à déterminer comment Epstein a accumulé sa richesse et comment il s'est entouré des hommes les plus puissants de son époque. Les Clinton dénoncent quant à eux une manœuvre de diversion visant à couvrir Donald Trump. Vincent Souriau, Washington RFI.
En parallèle, hier, Robert Garcia, élu démocrate au sein de la commission d'enquête de la Chambre des représentants chargée de l'affaire Epstein, a estimé que la Maison-Blanche continuait de dissimuler des allégations contre Donald Trump, dont il a réclamé l'audition.
À 13h11 à Paris, en France, un arrêté gouvernemental signé hier autorise la mise sur le marché d'un nouveau traitement préventif du VIH.
Il s'appelle le cabotegravir et permet d'être protégé durant 2 mois. Cela faisait 2 ans que les associations de lutte contre la maladie l'attendaient. La Haute Autorité de Santé n'y voyant pendant longtemps qu'une avancée modérée au vu du prix affiché par le laboratoire Vive Healthcare. Le prix négocié n'a pas été communiqué. Mais ONG comme médecins sont aujourd'hui satisfaits, Marie-Cazadebé ?
Oui, en France, il existait déjà un traitement préventif du VIH-Sida. La PrEP a été autorisée il y a une dizaine d'années. Elle consiste à prendre un comprimé quotidiennement ou bien avant et après un rapport sexuel. Son efficacité a fait ses preuves. Aujourd'hui, on estime à 50 000 le nombre d'utilisateurs. Le cabotegravir, lui, se présente sous la forme d'une injection à longue durée d'action. Vous l'avez dit, il s'administre tous les 2 mois. Et pour le professeur Jean-Michel Molina, chef du service de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris, c'est une avancée significative.
On se rend compte qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont du mal à prendre ces comprimés ou qui ne les prennent pas régulièrement. Et donc, ce nouveau traitement permet de s'affranchir des problèmes de mauvaise observance du traitement. Et de cette façon, on espère justement toucher des publics qu'on n'a pas touchés avec les comprimés. C'est quand même ça l'enjeu. Les comprimés ont réussi à toucher une population, on va dire, surtout d'hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes. Et en fait, il y a bien d'autres groupes exposés au VIH, notamment pour les femmes, si leur partenaire masculin ne veut pas mettre de préservatif, comment font-elles pour se protéger ?
Le cabotegravir devrait être accessible dès le mois prochain, dès le mois de mars, dans quelques jours. Il sera entièrement pris en charge par l'assurance maladie, mais toujours ou presque proposé en seconde intention, si la prise des comprimés est problématique.
Les explications en studio de Marie-Cazadebé. Et puis du football, jour de tirage concernant les 8e de finale de la Ligue des Champions, tirage qui avait lieu à Nyon, en Suisse, au siège de l'UEFA il y a quelques minutes. Les 16 clubs qualifiés connaissent donc leurs adversaires. Bonjour Cédric de Oliveira.
Bonjour Juliette.
Le tenant du titre, le PSG, affrontera donc les Anglais de Chelsea.
Oui, c'était soit le Barça de Lamine Yamal, soit Chelsea et Cole Palmer, les deux adversaires potentiels en 8e de finale de cette Ligue des Champions pour le PSG. Et ce sera donc le club anglais qui fera office d'adversaire pour les Parisiens. Un sacré défi pour les Parisiens, pour une revanche, une sorte de revanche de la dernière finale du Mondial des clubs l'été dernier, qui avait vu les Blues s'imposer 3-0 aux États-Unis. Voilà donc l'adversaire pour le dernier représentant français encore engagé, le PSG, qui avait bataillé pour éliminer Monaco en barrage cette semaine, donc au Parc des Princes, de partout, après le 3-2 du match aller. Paris qui va retrouver une formation anglaise après avoir affronté Liverpool, Aston Villa et Arsenal la saison passée. Ce sera donc un joli duel entre Paris et Chelsea. Mais la plus belle affiche de ces huitièmes de finale, ce sera Real Madrid-Manchester City, devenu un classique de la Ligue des Champions entre les vainqueurs de la compétition en 2023, donc pour City, et 2024 pour pour les Madrilènes.
Cédric De Oliveira du service des sports, et les huitièmes de finale auront lieu au mois de mars. Donc, match aller prévu les 10 et 11, match retour une semaine plus tard les 17 et 18 mars, Clotilde.
Oui, on continue d'en parler dans le journal des sports. Merci beaucoup Juliette Pietraszewski. Alors, ce sera donc Chelsea pour le PSG. Bonjour Thomas de Saint-Léger.
Bonjour Clotilde.
En huitième de finale de la Ligue des Champions, on réagit déjà après ce tirage au sort dans le camp parisien.
Ouais, Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, est actuellement en conférence de presse. Il vient d'évoquer cette double confrontation à venir face aux Blues de Chelsea. Je vous propose de l'écouter tout de suite.
On est content. Ce sera fascinant de jouer contre une des meilleures équipes anglaises que nous connaissons bien. Aucun sentiment de revanche, ce sont différentes compétitions. Mais ce qui représente ce tirage au sort, c'est notre semaine, on est habitué. Et ce que je pense toujours, que les champions, c'est nous, les champions dans ce moment, dans cette compétition, et les problèmes, c'est pour les restes des joueurs d'équipe, excusez-moi. Les restes d'équipe qui doivent jouer contre nous. C'est ça que je pense.
HTR, le mix de toutes les cultures, c'est sur HTR.
désirerais avoir de la musique.
Mais attends, cherche mon morceau qui passe à la radio.
Sur HDR. HDR 99.1 à Rouen.
Groovy, groovy, jazzy, funky, pounce, bounce, dance as we dip in the melodic sea. Rhythm keeps flowing, it drips the MC.
London, quite
late,
I need to make a sound.
HDR.
Si tu n'existais pas, il faudrait t'inventer.
Je vous dis que j'aime pas le rock. Ah non, j'aime pas le rock. Alors je déteste le rock. J'ai horreur du rock.
Je me souviens d'un air sud-américain. C'était très amusant. Irène dansait comme une espagnole, un peu comme ça.
HDR.
Tu prends le micro, comme toi, tu prends le métro. J'ai le ticket qu'il faut, mes yeux de compas temps de passe en entendant. Tu entends, j'avance lentement, mais sûrement.
Peace, love in my heart, it's been a while now. Here's three words, hold it down. So right now, I am gonna hold it down.
Voilà, vous êtes sur HDR.
Alerte orange.
Radio HDR.
Attention, il approche.
Radio HDR.
Contact imminent.
Radio HDR.
Contact imminent.
Le mix des cultures.
Le mix,
c'est sur le 99.1 FM.
Le 99.1 FM.
Sur le 99.1 FM.
Alerte orange terminée.
First things first, I'm the one and the two and the three. I saw the others, they'll never be me. Show me one thing that's been worth risking me, babe. Why you no like nice things? Why you no like nice things?